Et si on changeait d'échelle, si on prenait du recul, et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens ? La France n'a pas été le seul pays européen à accorder récemment le droit de vote aux couples de même sexe.
En effet, Marie-Ève, l'Angleterre et le Pays de Galles, la loi ne concerne en effet ni l'Écosse ni l'Irlande du Nord qui légifèrent séparément, eh bien ont adopté par voie législative le 5 février dernier, par 400 voix contre 175, plus de la moitié des conservateurs s'y sont opposés, un projet similaire au mariage pour tous français.
Mais contrairement à la situation française et aux 110 heures de débat dont nous parlions à l'instant, le texte n'a pas passionné les foules.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Marie-Ève, puisque il faut dire que le Royaume-Uni, eh ben en fait, il reconnaissait depuis 2004 une union civile pour les couples homosexuels, une union qui n'accordait certes pas les mêmes droits que le mariage pour les couples hétérosexuels, mais qui donnait lieu à une cérémonie devant le maire, par exemple, et qui surtout ouvrait à bien plus de droits que le Pax en France, par exemple. De plus, en Angleterre, depuis 2005, l'adoption, elle était déjà ouverte aux couples, qu'ils soient non mariés ou, eh bien, homosexuels.
On imagine donc que, vu depuis The Houses of Parliament, les 110 heures de débat et les manifestations géantes des opposants ou des partisans en France ressemblèrent fort à ce titre de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. On voit donc encore une fois, et vous y êtes habitués, chers auditeurs, que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, regarder la politique avec des yeux européens permet de prendre un recul salutaire.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnel, Jérôme nous présente régulièrement sa chronique Vue d'Europe.
L'Eurogroupe. On n'en entend pas beaucoup parler de l'Eurogroupe, et pourtant c'est une institution capitale de l'Union européenne, surtout en ce moment. Arrêtons-nous-y donc quelques instants pour y voir plus clair. L'Eurogroupe, c'est la réunion de l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro, qui doit servir d'instrument de coopération entre les politiques de gouvernance économique qui partagent une même monnaie, l'euro. Le grand problème de l'euro, c'est sans doute que l'Union européenne n'a jamais été suivie d'aucune harmonisation budgétaire ou fiscale réelle. C'était jusqu'à présent le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, qui présidait cette institution plus ou moins informelle, mais aussi de moins en moins informelle. Les difficultés que traverse actuellement la zone euro justifient pleinement cette progressive institutionnalisation. Or, en janvier dernier, l'Eurogroupe a changé de président. Quand Jean-Claude Juncker a annoncé son retrait, Paris et Berlin se sont vite mis à saliver. Deux horizons différents, deux visions de l'économie différentes, représentées par le ministre des Finances français, Pierre Moscovici, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Pendant quelques semaines, les deux hommes, qui pèsent évidemment beaucoup sur la scène politique et économique européenne, se sont un peu regardés en chien de faïence, en jouant au chat et à la souris sur le mode « si t'y vas pas, j'y vais », en ces temps où l'on célébrait dans une allégresse toute relative le cinquantenaire de l'amitié franco-allemande. Mais c'était sans compter sur le fait que Jean-Claude Juncker avait soigneusement préparé sa succession. Et en fin de compte, ça n'a pas été l'histoire du chat et de la souris, mais celle du lièvre et de la tortue. Et le lapin qui est finalement sorti du chapeau, personne ne l'a vu venir. Il répond au doux nom de Jeroen Dijsselbloem. Il a 47 ans. Il n'a jamais fait de vagues, sauf lorsqu'il a demandé l'interdiction de jeux vidéo violents et fustigé, je cite, la nudité à la télévision. Il n'était ministre des Finances des Pays-Bas que depuis à peine 2 mois, et il était totalement inconnu du grand public. C'est sûr que cela va encore aider les citoyens européens à se reconnaître dans leurs dirigeants. L'Union européenne a décidément le chic pour mettre en tête de proue d'éminentes personnalités. On se souvient, il y a 4 ans, de l'arrivée fracassante du célébrissime Herman von Rompuy et de la non moins renommée Catherine Ashton à la tête de la diplomatie européenne. Mais enfin bon, en attendant, notre cher Moscou mange son chapeau. Il a même critiqué à mots couverts la nomination de cet ancien député très peu expérimenté en le qualifiant de sympathique. Comprenez, incompétent. Le choix d'un Irlandais était en réalité un choix par défaut. Il fallait un pays qui soit membre de la zone euro. Pour gérer l'euro, c'est sûr que ça vaut mieux. Il fallait éviter les mastodontes français et allemands pour ne favoriser personne officiellement. Mais quand même un des 6 pays fondateurs de l'Union. Il ne restait alors que le Benelux. Encore et toujours le Benelux. Et après le luxembourgeois Juncker, c'est donc le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem qui a été choisi, en attendant sans doute un Belge pour la prochaine fois. Il ne connaît pas bien les arcanes des institutions européennes, ce Jeroen Dijsselbloem. Il n'a pas beaucoup d'expérience pour la gestion des crises, mais tout le monde est quand même tombé d'accord sur lui. Allez comprendre. À tout prendre, la France de François Hollande peut quand même se réjouir. C'est l'orientation social-démocrate qui semble avoir été retenue. Et puis, après tout, l'heureux élu n'est-il pas hollandais ? Blague à part, l'Allemagne y trouve aussi son compte. Le gouvernement néerlandais, l'un des rares en Europe à avoir conservé son triple A, est le plus fervent soutien de l'austérité budgétaire et de l'orthodoxie de la politique économique d'Angela Merkel. Moscovici a d'ailleurs prévenu « Ce que j'attends, c'est qu'on garde une vision inspirée, qu'on n'ait pas une vision restrictive, que ce ne soit pas une Europe triple A ou une Europe du Nord contre une Europe du Sud. » Et d'ajouter « Peu amène pour son nouveau président, c'est une tâche extraordinairement lourde, et je pense qu'elle doit être faite complètement. » Bref, on pouvait attendre un président effacé, utile pour ses qualités de médiateur. À vrai dire, c'est sans doute ce sur quoi même certains comptaient bien. Mais, en patois brabançon, Dijsselbloem, cela signifie « fleur de chardon ». Et le chardon, ça peut piquer. Pour la première réunion de l'Eurogroupe sous sa présidence, le nouvel élu a voulu marquer le coup. Il a réussi à se mettre à dos le ministre chypriote des Finances en refusant d'exclure que les actionnaires et les épargnants des banques chypriotes soient obligés de contribuer au sauvetage de l'euro. Le ton est monté d'un cran et un diplomate chypriote a qualifié l'approche de Jeroen Dijsselbloem de complètement inacceptable en le mettant en garde contre une ruée des épargnants pour vider leurs comptes et précipiter ainsi le secteur bancaire chypriote dans le mur. Et de conclure par un petit coup de pied de l'âne, Juncker, lui, n'aurait jamais fait cela. Une nouvelle tête à suivre donc. Mais si je n'avais qu'une seule chose à demander, le plus modestement possible, c'est que l'on arrête par pitié de nommer au poste stratégique de l'Union européenne des gens en fonction de leur nationalité ou de leur parti, plutôt qu'en fonction de leurs compétences. S'il vous plaît, un tout petit peu plus de démocratie et de bon sens seulement dans les rouages de cette grande machine européenne, c'est vital. C'est le seul moyen d'éviter un divorce définitif avec les citoyens européens et, qui sait, de sortir de là.